Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série « L'importance de la rédemption ». Nous arrivons à l'étude numéro 29 et notre titre sera « Qu'un chrétien soit déchu ». C'est possible. Chers frères et sœurs et chers amis, en effet, il peut arriver, et il y en a qui ne le croient pas, qu'un chrétien peut être déchu. Il est dit dans le livre des Proverbes, le chrétien déchu de cœur sera rassasié de ses voies. Proverbe 14, verset 14. Je ne peux pas terminer cette série d'études sans mettre en garde les convertis contre la déchéance du cœur. Si je l'ai répété deux fois ou trois, c'est que c'est une triste chose et nous devons tous faire attention à cela. Tous, moi-même, j'ai dû au cours de ma vie faire attention car j'ai risqué d'être déchu et je le reconnais humblement. Je dois tout à mon Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, nous allons voir ce que n'est pas la déchéance du cœur. Deuxièmement, ce que est la déchéance du cœur. Troisièmement, les preuves de la déchéance du cœur. Quatrièmement, les conséquences de la déchéance du cœur. Et cinquièmement, comment sortir de l'état de déchéance. Donc, premièrement, tout d'abord, voyons ce que n'est pas la déchéance du cœur. Elle ne consiste pas dans l'apaisement d'émotions religieuses qui avaient été fortement éveillées. L'affaissement du sentiment religieux peut être une preuve que le cœur est déchu, mais la déchéance ne consiste pas dans le refroidissement du sentiment religieux. Deuxièmement, voyons ce que est la déchéance du cœur. Elle consiste à retirer cette consécration faite à Dieu et à son service qui constitue la véritable conversion. C'est l'abandon par le chrétien de son premier amour. Elle consiste dans le fait que le chrétien se retire lui-même de cet état de ferveur complète et général qui constitue la vraie foi chrétienne et qu'il se place à nouveau sous l'empire de la satisfaction personnelle. Le texte implique qu'il peut y avoir déchéance du cœur tandis que sont maintenues les formes de religion et l'obéissance à Dieu. De même que nous voyons différents hommes accomplir des actes identiques ou semblables, et cela pour des motifs entièrement différents et souvent opposés, de même nous sommes certains que des hommes peuvent conserver toutes les formes extérieures de la foi chrétienne, tandis que de fait, ils sont, hélas, déchus de cœur. Difficile à croire, mais c'est vrai. Le pire égoïsme se revêt souvent d'une forme religieuse et nombreuses sont les raisons qui peuvent amener un chrétien déchu de cœur à conserver les formes, tandis que dans son âme et esprit, il a perdu la puissance de la piété. Troisièmement, il y a les preuves de la déchéance du cœur. C'est un formalisme manifeste dans les exercices de piété, une manière stéréotypée, formaliste, de dire et de faire les choses qui est nettement le résultat de l'habitude, plutôt que le jaillissement spontané de la vie chrétienne. Ce formalisme sera sans émotion et froid comme un bloc de glace. Il témoigne d'un manque total de zèle dans l'accomplissement du devoir religieux. Un manque de contentement de la foi chrétienne est une preuve de la déchéance du cœur. Nous avons toujours de la satisfaction à dire ou à faire ce qui plaît à ceux que nous aimons le plus. En outre, quand le cœur n'est pas déchu, la communion avec Dieu est maintenue et les devoirs religieux ne sont pas seulement accomplis avec plaisir, mais la communion avec Dieu qu'ils impliquent est une source de satisfaction profonde et continuelle. Si nous ne trouvons pas de joie dans le service de Dieu, c'est que nous ne le réservons pas véritablement. Voyez-vous, si nous l'aimons véritablement, eh bien, nous voudrions le servir de tout notre cœur. Hein? C'est logique. Il est donc impossible de dire qu'on aime le Seigneur quand en réalité on néglige tout ce qui le concerne, on néglige absolument les âmes qui sont autour de nous et on s'occupe à peine de soi-même. Donc, je voudrais dire que si nous aimons vraiment, véritablement le Seigneur, il est impossible que son service ne soit pas pour nous, à chaque pas, un sujet de satisfaction. Rappelez-vous toujours que lorsque vous perdez votre contentement ou la joie au service de Dieu, vous ne le servez pas de la bonne manière. Celui qui est déchu de cœur ressemble souvent à une épouse qui est soumise, d'accord, mais qui est sans amour. Elle essaye de remplir son devoir envers son mari, mais elle échoue. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas d'amour véritable pour lui. Toute la peine qu'elle se donne pour plaire à son mari est quelque chose de forcé. Ce n'est pas l'élan spontané d'un cœur aimant et ses relations avec son mari, ses devoirs envers lui, deviennent le fardeau de sa vie. Elle va donc se plaignant du poids des soucis qui pèsent sur elle, et il est peu probable qu'elle encouragera des jeunes filles à se marier. Elle s'est engagée pour la vie et dès lors doit accomplir les devoirs de la vie conjugale, mais quel esclavage épouvantable! Et il en est de même de l'esclavage chrétien, religieux. Celui qui professe la religion doit ou devrait accomplir son devoir. Il le traîne péniblement, ce devoir, derrière lui, et vous l'entendrez tout naturellement chanter les cantiques propres au cœur déchu, tels que « J'entends bien volontiers ce que dit la raison. Je pèse ses conseils, j'approuve ses discours, mais obéir est dur, aimer beaucoup plus dur encore. » Lorsque le cœur est plein d'amour, le caractère sera naturellement modéré et doux, ou, en tout cas, la volonté le maîtrisera et ne lui permettra pas de se laisser aller à de violentes invectives. Si toutefois, à un moment donné, la colère échappait à l'empire de la volonté, au point d'éclater en paroles haineuses, elle sera promptement subjuguée et en aucune façon il ne lui sera permis de s'installer en maître et de se donner libre carrière au détriment d'autrui. Un cœur aimant confesse ses fautes. On est d'accord avec ça. Et en plus, n'a pas peur de s'humilier. J'ai dû le faire des milliers de fois dans ma vie. Si la mauvaise humeur a pris le dessus, nous devons remédier à cela par la prière et l'humilité. Toutes les fois, par conséquent, qu'un caractère indiscipliné à la liberté de se manifester à l'égard de l'entourage, vous pouvez savoir que le cœur de cette personne ou de nous-mêmes est déchu. Un esprit de critique est également une preuve concluante de déchéance du cœur. Qu'est-ce qu'on peut parfois critiquer? C'est épouvantable. J'ai connu cela. Heureusement que le Seigneur m'en a délivré. On appelle ça avoir besoin parfois une délivrance. Il s'agit ici, chers amis, d'un esprit qui trouve toujours à redire aux autres, qui conteste leur mobile, alors que leur conduite permet une interprétation charitable. C'est la disposition à rejeter la faute sur les autres, à les juger sévèrement. C'est un esprit de méfiance à l'égard du caractère et de la profession chrétienne d'autrui. C'est un état d'esprit qui se révèle dans des jugements et des paroles âpres et dans la manifestation de mauvais sentiments à l'égard des gens. Cet état d'esprit est entièrement incompatible avec un cœur aimant, et toutes les fois que se manifeste un esprit de critique chez un chrétien, vous pouvez être sûr qu'il y a une déchéance de cœur. Un manque d'intérêt pour la sainte parole de Dieu est aussi une preuve de déchéance du cœur. Il n'y a peut-être pas de preuve plus décisive de déchéance du cœur chez un chrétien que la perte de l'intérêt qu'il avait pour la Sainte Bible. Tant que le cœur est plein d'amour, aucun livre au monde n'est aussi précieux que la Sainte Bible. Mais lorsque l'amour est parti, non seulement la Sainte Bible n'intéresse plus, mais souvent on répugne à la lire, la foi n'est plus là pour accepter ses promesses, mais il reste encore assez de conviction pour redouter ses menaces. Cependant, en général, le chrétien au cœur déchu est apathique en ce qui concerne la Bible. Il ne la lit guère avec plaisir, et lorsqu'il la lit, c'est avec trop peu d'intérêt pour qu'il la comprenne. Les pages en deviennent obscures et dès lors sans aucune saveur. Par conséquent, la lecture en est négligée. Un manque de goût pour la prière secrète est aussi une preuve de déchéance du cœur. Jeune chrétien, si vous vous apercevez que la Sainte Bible et la prière secrète perdent pour vous leur attrait, arrêtez-vous aussitôt, retournez à Dieu et ne vous donnez aucun repos jusqu'à ce que vous vous réjouissiez à la lumière de sa face. Si vous ne vous sentez pas enclin à prier ou à lire votre Bible, si lorsque vous priez ou que vous lisez votre Bible, votre cœur n'y est pas, si vous êtes tenté d'abréger votre temps de méditation et de prière, ou que vous vous sentiez porté à les négliger, ou si vous pensez vos affections, oui, vos affections et vos émotions deviennent instables, vagabondes, eh bien, sachez que vous êtes déchu de cœur et que la première chose à faire pour vous, c'est d'être brisé devant Dieu et de faire le nécessaire pour renouveler votre amour et votre zèle. Un manque d'intérêt pour la conversion des âmes et pour les efforts en faveur d'un réveil dénote évidemment la déchéance du cœur. Un cœur rempli de l'amour de Dieu ne s'intéresse à rien autant que à la conversion des âmes et au réveil. La perte de l'intérêt pour les entreprises charitables en général est une preuve de déchéance du cœur. Je dis perte d'intérêt, car assurément, si jamais vous avez été converti à Christ, vous vous êtes intéressé à toutes les entreprises charitables. La foi chrétienne consiste en une bonté désintéressée. Il va de soi qu'une âme convertie prend le plus profond intérêt à tous les efforts désintéressés pour réformer et sauver l'humanité, à tout gouvernement équitable, à l'éducation chrétienne, à la cause de la tempérance, au secours accordé aux pauvres, c'est-à-dire à toute bonne parole et toute bonne œuvre. Dans la mesure où votre intérêt pour ces choses a disparu, vous avez la preuve que votre cœur est déchu. Avoir perdu son intérêt pour les conversations vraiment spirituelles est une autre preuve de déchéance du cœur. De l'abondance du cœur, la bouche parle, nous est-il dit dans Saint Matthieu, chapitre 12, verset 34. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a proclamé comme une loi de notre nature. Pour le cœur rempli de l'amour de Dieu, il n'est pas de conversation plus attrayante que celle qui a pour objet Christ et l'expérience chrétienne vibrante. Si vous perdez le goût de ces entretiens et des expériences des chrétiens, et que vous ayez autrefois connu le vrai amour de Dieu, eh bien vous êtes déchu de cœur. Avoir perdu l'intérêt pour la sanctification, ça c'est une preuve de déchéance du cœur. Cette fois encore, je parle de la perte d'intérêt, car si vous avez véritablement connu l'amour de Dieu, vous devez avoir eu à cœur l'entière consécration à Dieu ou l'entière sanctification. Vous avez senti que le péché est une abomination pour votre âme et esprit. Vous avez éprouvé un désir inexprimable d'en être délivré pour toujours, et tout, on peut dire, tout ce qui pouvait jeter de la lumière sur cette question angoissante était d'un intérêt palpitant pour vous. Si cette question a été mise de côté et que vous n'y preniez plus du tout d'intérêt, c'est parce que vous êtes déchu de cœur. Avoir perdu l'intérêt pour les nouveaux convertis est aussi une preuve, ça va sans dire, de déchéance du cœur. Le psalmiste dit « Ceux qui te craignent se réjouiront en me voyant parce que j'ai espéré en ta sainte parole. » Psaume 119, verset 74. Il met ces mots dans la bouche d'un converti et chacun sait que cela est vrai. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un pécheur qui se repent. Et n'y a-t-il pas de joie parmi les saints sur la terre au sujet de ceux qui viennent à Christ comme des nouveau-nés dans le royaume? Montrez-moi un chrétien qui ne manifeste pas un intérêt profond pour ceux qui se donnent à Christ, et je vous ferai voir en lui un homme déchu de cœur et un hypocrite. Il professe être chrétien, mais il ne l'est point. Et rappelez-vous, quand je dis le mot « homme », la femme est comprise là-dedans. L'homme et la femme. Le manque d'esprit de prière, ah, ça, c'est également une preuve de déchéance du cœur. Tant que l'amour de Christ conserve la fraîcheur dans l'âme, l'Esprit Saint de Dieu révélera sa présence comme esprit de grâce et de supplication. Il engendrera le désir ardent du salut des pécheurs et de la sanctification des saints. Souvent, il intercédera en eux avec des aspirations profondes, avec grands cris et larmes, avec des soupirs inexprimables en vue de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Romains 8, versets 26 et 27. Si l'esprit de prière s'évanouit, c'est l'indication que le cœur est déchu, car tant que le premier amour subsiste, un chrétien est certain d'être conduit par l'Esprit Saint et à beaucoup combattre, par la prière. Et il ne faut pas avoir peur de se mettre parfois à genoux, pour autant que l'état physique le permet, évidemment. Un cœur déchu se révélera encore en priant presque exclusivement pour lui-même et pour ceux peut-être encore de ses amis qu'il considère presque comme faisant partie de lui-même. Il est souvent très frappant et même choquant d'assister à une réunion de prière de chrétiens déchus. Et je regrette de le dire, beaucoup de réunions de prière de l'Église ne sont guère autre chose. Je ne dis pas que ça arrive partout, heureusement pas. Une autre chose, lorsque la prière est considérée comme un devoir et non comme un privilège, le cœur est déchu. Cela m'a toujours paru ridicule d'entendre parler de la prière comme d'un devoir. Or, c'est un des plus grands privilèges d'ici-bas. Que penserions-nous d'un enfant venant vers son père ou vers sa mère pour dîner, non parce qu'il a faim, mais uniquement par devoir? Nous serions également frappés d'entendre un mendiant parler de son devoir de nous demander l'aumône. C'est un privilège infini de pouvoir venir à Dieu et de lui demander de subvenir à tous nos besoins. Mais prier parce que nous le devons, plutôt que parce que nous le pouvons, paraît, à mon avis, contre nature. Demander ce dont nous avons besoin, parce que nous en avons besoin, parce que Dieu nous a encouragés à le lui demander et qu'il a promis de répondre à notre requête, est chose naturelle et raisonnable. Mais prier comme pour accomplir un devoir et comme si nous rendions en quelque sorte service à Dieu, cela est absolument ridicule et une indication d'un cœur déchu. L'aveuglement spirituel est encore une preuve de déchéance du cœur. Tant que le cœur est simple, le corps entier est plein de lumière spirituelle. Mais si l'œil est mauvais, ce qui signifie un cœur déchu, le corps est rempli de ténèbres. L'aveuglement spirituel se révèle par un manque d'intérêt pour la sainte parole de Dieu et pour la vérité chrétienne en général, et aussi par un manque de jugement spirituel qui cède facilement aux insinuations de Satan. Un cœur déchu adopte une moralité relâchée. Il ne discerne pas la spiritualité de la loi de Dieu et en général de ce que Dieu réclame. L'apathie religieuse, jointe à une perspicacité et à une sensibilité mondaine, est une indication certaine que le cœur est déchu. Nous voyons quelquefois des personnes qui sentent vivement les choses de ce monde, mais qu'on ne peut amener à de profonds sentiments religieux. Un esprit d'indulgence pour soi-même est une indication qu'il y a déchéance du cœur. Par indulgence pour soi-même, j'entends une disposition à satisfaire ses appétits, ses passions, ses penchants à accomplir les désirs de la chair et de ses pensées. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Dans la Sainte Bible, cet état représente la mort spirituelle. Je suis convaincu que les causes les plus courantes de la déchéance du cœur se trouvent dans le fait que les divers appétits et penchants revendiquent leurs droits et exigent qu'on les satisfasse. Le relâchement dans les principes moraux est un sûr indice de déchéance du cœur. Un chrétien déchu ne fera pas un saint emploi du dimanche. Hein? Dans telles affaires, il ne sera pas scrupuleux s'il s'agit d'y trouver un avantage. Il emploiera des procédés douteux. Il se conformera aux habitudes des hommes d'affaires de ce monde. Il se rendra coupable de tromperies et de ruses. Il réclamera des intérêts exorbitants et profitera de la situation précaire de ses semblables. Un autre problème, là où prévaut la crainte de l'homme, il est évident que le cœur est déchu, et heureusement qu'il y en a qui aiment davantage leur Seigneur et certains de leurs devoirs que obéir même à un président qui a tamponné avec le tampon d'État, qu'on peut bien dire, comme quoi qu'il doit marier des homosexuels. Eh bien, il y a des maires qui ont refusé cela, et je peux vous dire qu'il faut beaucoup de cran, parce que il y a, paraît-il, une très lourde peine pécuniaire, une amende terrible qui leur est demandée, je ne me rappelle pas exactement le chiffre, plus encore 5 ans de prison ferme. C'est la dictature qui prépare la venue de l'Antéchrist. Donc, tant que le cœur est rempli de l'amour de Dieu, Dieu est craint et non pas l'homme. Le désir d'être approuvé des hommes est dominé. Il suffit de plaire à Dieu que les hommes soient satisfaits ou non. Mais lorsque l'amour pour Dieu s'est affaibli, la crainte de l'homme, cette crainte qui est un piège, Proverbe 29, verset 25, prend possession du chrétien déchu. Plaire à l'homme plutôt que à Dieu, et alors son but, et il sera plus disposé à offenser Dieu que l'homme. Quatrièmement, quelles sont les conséquences de la déchéance du cœur? Le texte dit que l'homme dont le cœur est déchu sera rassasié de ses propres voies. Il sera rassasié de ses propres œuvres. Mais ce sont des œuvres mortes et non pas des œuvres de foi et d'amour qui sont agréées de Dieu. Ce sont des haillons souillés de sa propre justice. Si elles sont accomplies sous forme d'actes religieux, elles ne sont qu'une odieuse hypocrisie et une abomination devant Dieu, car le cœur n'y est pas du tout. À de telles personnes, Dieu dit, « Qui a demandé cela de votre main ?» Ésaïe 1, verset 12. « Vous êtes de ceux qui se justifient devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Saint Luc chapitre 16, verset 15. Je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Saint Jean chapitre 5, verset 42. Il sera rassasié de ses propres sentiments. Au lieu de goûter la douce paix, le repos, la joie par le Saint-Esprit dont il a jadis fait l'expérience, il se trouvera inquiet, mécontent de lui-même et de tout le monde. Ses sentiments seront douloureux, humiliants, désagréables et peu aimables. C'est souvent très éprouvant de vivre avec des chrétiens déchus. Ils ont abandonné Dieu et dans leurs sentiments, il n'y a plus, on peut dire, davantage le mot, davantage de l'enfer que du ciel. Il y a parfois la faute qui peut venir, surtout quand on n'est pas de langue française, par des mots tels que le foi, la foi, tels que plus ou plus du tout. Donc, je redis la phrase. Ils ont abandonné Dieu et dans leurs sentiments, il y a plus, ça veut dire davantage, de l'enfer que du ciel. Ils seront rassasiés de leurs propres préjugés. Leur bonne volonté pour connaître et pratiquer la vérité s'est évanouie. Tout naturellement, ils s'élèvent contre toute la vérité qui s'attaque à l'esprit de complaisance envers soi-même. Ils s'efforcent de se justifier, ne lisent et n'écoutent pas ce qui désapprouve leur état de déchéance. Et ils ont de grands préjugés contre celui qui se met en travers de leur route ou qui les reprend. Ils le considèrent comme un ennemi. Ils se replient sur eux-mêmes et ferment les yeux à la manière, on peut dire, à la manière de ceux qui n'ont pas la conscience très tranquille. Ou si je répète la phrase, ils se replient sur eux-mêmes et surtout, ils vont fermer les yeux à la lumière divine et ils se tiennent sur la défensive et ils vont trouver à redire à tout ce qui les mettrait à découvert. Donc, celui qui est déchu de cœur sera rassasié de ses propres erreurs. Il ne marche pas avec Dieu. Il est sorti de l'ordre divin. Il n'est pas conduit par l'esprit, mais marche dans des ténèbres spirituelles. Il est sûr de tomber dans des fautes nombreuses et douloureuses, et peut-être qu'il se trouvera enlacé au point de voir son bonheur compromis et son utilité détruite pour toute sa vie. Erreur dans les affaires, erreur en formant de nouvelles amitiés, erreur dans l'emploi de son temps, de sa langue, de son argent, de son influence. En vérité, tout ira de travers pour lui aussi longtemps qu'il restera dans un état de déchéance. Celui qui est déchu de cœur sera rassasié de ses propres convoitises. Ses désirs et ses passions autrefois maîtrisées ont repris leur autorité. Ayant été si longtemps réprimées, elles semblent se venger en venant plus bruyante et plus despotique que jamais. les penchants et les appétits naturels jaillissent au grand étonnement du chrétien déchu, et il se trouve sous leur influence et leur esclavage plus que jamais auparavant. Celui qui est déchu de cœur sera rassasié de ses propres paroles. Il ne cherche pas à être et ne peut pas être maître de sa langue. Celle-ci s'affirme comme un membre déréglé, plein de venin mortel. Par ses paroles, il s'engage dans beaucoup de difficultés et de perplexités inextricables pour lui, jusqu'à ce qu'il revienne à Dieu. Voyez-vous ? Donc, le chrétien déchu de cœur sera rassasié de ses propres préoccupations. Il est revenu à l'égoïsme. Il se considère lui-même et ce qu'il possède comme étant son bien propre et qui lui appartient pour toujours. Il a donc à se préoccuper de tout. Il ne veut pas se compter lui et ses biens comme s'ils appartenaient à Dieu, ce qui devrait être le cas, et lui laisser à Dieu la responsabilité du soin de lui-même et de tout ce qu'il possède. Il ne se décharge pas et ne veut pas se décharger, il ne veut pas se décharger du tout de son souci sur le Seigneur, mais il entreprend de tout administrer uniquement pour lui-même, dans sa propre sagesse et en vue de ses propres desseins. En conséquence, ses soucis iront en se multipliant et l'envahiront un peu comme un déluge. Donc, celui qui est déchu de cœur, il sera rassasié de ses propres perplexités. Ayant abandonné Dieu, étant tombé dans les ténèbres de sa propre folie, il est rempli de perplexités et de doutes à l'égard du chemin à suivre pour accomplir ses desseins égoïstes. Il ne marche pas avec Dieu, mais contre Dieu. Dès lors, la providence de Dieu se met constamment en travers de son chemin et fait échouer tous ses plans. Dieu enverra l'obscurité sur sa route et s'efforcera de confondre et de disperser au vent absolument tous ses projets. Celui qui est déchu de cœur sera rassasié de ses propres soucis. Oh, il aura du souci pour lui-même, pour ses affaires, pour sa réputation, pour n'importe quoi. Il les a retirés des mains de Dieu, il les réclame pour lui-même et les considère comme étant à lui. Dès lors, n'ayant plus foi en Dieu, et étant incapable d'être maître des événements, il est nécessairement envahi par des soucis au sujet de l'avenir. Ces soucis sont le résultat inévitable de sa folie d'avoir abandonné Dieu. Celui qui est déchu de cœur sera rassasié de ses propres déceptions. Comme il a abandonné Dieu et marche selon sa propre volonté, Dieu le désappointe inévitablement dans ses desseins égoïstes. Il fait des plans selon ses propres goûts, sans jamais consulter Dieu. il va de soi que Dieu a pour lui des plans contraires. Le cours des événements tels que Dieu les dirige, comme Dieu les dirige, doit nécessairement lui procurer une série de déceptions. Celui qui est déchu de cœur doit être rassasié de ses propres pertes. Il considère ses biens, son temps, son influence, sa réputation comme étant à lui. La disparition de l'une de ces choses est donc pour lui une perte personnelle. Ayant abandonné Dieu et étant incapable de dominer les événements dont dépend la possession de ces choses, il a à souffrir des pertes de tous côtés. Il perd sa paix, ses biens, son temps, son influence et sa réputation chrétienne et, s'il continue, il perdra son âme. Ça, c'est certain. Celui qui est déchu de cœur sera rassasié de ses propres croix. Tout devoir religieux lui est ennuyeux et dès lors une énorme croix. Son état d'esprit transforme en croix une multitude de choses qui, s'il avait des dispositions chrétiennes, lui auraient été des plus agréables. Son cœur n'étant plus du tout dans la foi chrétienne, l'accomplissement de tout devoir religieux est une croix pour ses sentiments. Il n'y a point de secours pour lui jusqu'à ce qu'il retourne à Dieu. Tout ce que fait la providence divine se met en travers de son chemin et sa vie toute entière n'est qu'une série de croix et d'épreuves. Il ne peut pas faire ce qu'il veut, il ne peut pas avoir la satisfaction de réaliser tous ses désirs, il peut se heurter violemment contre le roc éternel de la volonté et des voies de Dieu, mais y faire une brèche et tout faire plier devant lui, il ne le peut pas. Il faut qu'il soit contrecarré encore et encore, jusqu'à ce qu'il s'abandonne à l'ordre divin et se perde dans la volonté de Dieu. Celui qui est déchu de cœur sera rassasié de la condamnation de lui-même. S'étant autrefois réjoui de l'amour de Dieu et ayant abandonné Dieu, il se sent condamné en toute chose. S'il cherche à accomplir un devoir religieux, il sait que son cœur n'y est pas du tout, et dès lors, il se condamne lui-même. S'il néglige ses devoirs chrétiens, il se condamne lui-même. S'il lit la Bible, elle le condamne, et s'il ne la lit pas du tout, il se sent également condamné. S'il assiste à des réunions religieuses, celle-ci le condamne, et s'il s'en abstient, il est aussi condamné. S'il prie en secret ou avec sa famille ou en public, il sait qu'il n'est pas sincère du tout, et donc il se sent condamné. S'il néglige ou refuse de prier, il se sent condamné. On peut dire tout le condamne. Sa conscience se dresse pour combattre contre lui et les tonnerres et les éclairs de la condamnation le suivent où qu'il aille. Et cinquièmement, pour terminer notre étude d'aujourd'hui, pour, on peut dire, comment pouvons-nous sortir de l'état de déchéance? Comment sortir de l'état de déchéance? Eh bien, rappelez-vous d'où vous êtes déchu. Occupez-vous immédiatement de cette question-là et établissez délibérément le contraste entre votre état présent et celui que vous avez connu lorsque vous marchiez avec Dieu. Que votre esprit soit bien pénétré de votre véritable position. Ne tardez pas plus longtemps à comprendre quelle est la situation exacte entre Dieu et votre âme et esprit. Repentez-vous sur le champ et pratiquez de nouveau vos premières œuvres. N'essayez pas de vous amender en réformant uniquement votre conduite extérieure. Commencez par votre cœur et votre âme et esprit et mettez-vous immédiatement en règle avec Dieu. N'agissez pas simplement comme un pécheur convaincu de péché, essayant de vous recommander vous-même auprès de Dieu par les œuvres mortes et par les prières. Ne pensez pas que vous devez vous réformer, mais pas du tout, ou de vous rendre meilleur. Vous rendre meilleur avant de pouvoir venir véritablement à Christ avec un cœur nouveau. Mais comprenez bien que seul le fait de venir à Christ peut vous rendre meilleur. Si malheureux que vous vous sentez, soyez assuré que tant que vous ne vous êtes pas repenti et que vous n'avez pas accepté sa volonté, et cela sans aucune réserve, vous n'êtes pas meilleur, mais que vous devenez constamment, hélas, plus mauvais. Tant que vous ne vous livrez pas à la miséricorde souveraine de Dieu et de son Fils bien-aimé Jésus-Christ, et que ainsi vous ne revenez pas à lui, il n'acceptera rien de vos mains. Ne vous imaginez pas être en état de justification, car vous savez que vous ne l'êtes pas. Votre conscience, elle vous condamne, et vous savez que Dieu doit vous condamner, et que s'il vous justifiait dans votre état actuel, votre conscience ne pourrait pas le justifier. Venez donc, je vous en supplie, simplement comme un enfant à Christ maintenant, comme un pécheur coupable et qui se sent condamné, avouez et prenez sur vous-même toute la honte et tout le blâme. Et croyez que malgré tous vos errements qui ont été pendant un certain temps loin de Dieu, il vous aime encore et qu'il vous a aimé d'un amour éternel. Et dès lors, il vous attire par sa tendre bienveillance. Chers amis, je ne vais pas faire une prière pour vous, Pourquoi cela? Cette fois, non. Je vous demanderai simplement de réécouter ce message, cette étude, si possible de prendre 2-3 notes qui vous semblent pour vous importantes. Ensuite, je dis bien, tout le monde ne peut pas se mettre à genoux. Par exemple, je pouvais me mettre à genoux pendant plus de 60 ans. C'est déjà pas mal. Mais maintenant, à plus de 86 ans, avec un canal lombaire trop étroit, ça donne des problèmes pas très sympathiques, pour pas dire autre chose. Et donc, je ne peux pas bien, sans presque crier de douleur, me mettre à genoux. Alors, le Seigneur ne me demande pas, dans ce cas, de me mettre à genoux. Donc, si vous êtes dans l'incapacité de vous mettre à genoux, ça n'a aucune importance, car ce n'est pas le fait de vous mettre à genoux que ça plaira davantage au Seigneur. C'est ce qui vient de votre cœur, de votre âme et esprit qui compte. Donc, simplement, remettez-vous, comme on dit des fois en français, se remettre en selle. Hein, c'est une expression à vous. Eh bien, oui, vous pouvez recommencer à neuf, totalement. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur vous aime. Il a compassion. Sa miséricorde est grande. Et donc, simplement, quelques mots. Pas besoin d'une litanie théologique compliquée. Non, quelques mots qui viennent de votre âme et de votre esprit. Vous priez et vous vous remettez dans les mains du Seigneur entièrement à nouveau. Vous verrez comme vous serez heureux. Je dis cela uniquement pour ceux, évidemment, qui ont pour un temps dérapé, glissé sur une banane. Que vous puissiez bien comprendre que ce message et cette demande de prier ainsi, je ne le demande pas à ceux qui sont en ordre devant le Seigneur, qu'on ne puisse pas se mécomprendre. Je ne voudrais pas attrister quelqu'un, jamais. J'en ai pas le droit, puis aussi je ne voudrais jamais faire une chose pareille. Donc, vous avez bien compris, ce message s'adresse évidemment surtout à ceux comme moi qui, autrefois, a été pendant quelques années déchu carrément par ma propre faute. Hein? Faut pas donner la faute aux autres, c'était la mienne. Eh bien, j'ai parlé cette étude, ce message, uniquement pour cela. Et ils peuvent revenir au Seigneur maintenant, merveilleusement. Le Seigneur vous prendra dans ses bras avec son amour incommensurable. Il vous aime. Chers amis, à demain, Dieu voulant, à bientôt donc, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.